Alors prions avant d'ouvrir la parole. Seigneur notre grand Dieu, oui, tu es tout puissant, tu es l'éternel roi. Et tu as donné à ton fils le plus beau nom, celui de Seigneur, celui de Christ, le Messie, celui qui est Dieu avec nous, Emmanuel. Merci Seigneur. Alors qu'on ouvre ta parole, alors qu'on veut plonger nos regards dans ce que tu veux nous révéler par elle ce matin et cet été, Seigneur, on te demande d'éclairer notre intelligence. On te demande de nous remplir de la connaissance de la vérité. Non seulement au niveau intellectuel, Seigneur, mais au niveau émotionnel, au niveau de notre volonté, au niveau de notre cœur. Merci Seigneur, parce que tu es tout puissant pour opérer des changements même dans des pécheurs tels que nous. On te demande ta direction. Continue à étendre ta compassion sur nous, nous te prions. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans un monde qui a un désir constant de nouveauté. Alors quand le iPhone 6 sort, c'est vraiment démodé d'avoir un iPhone 4. Un iPhone, c'est encore correct, mais là, on ne veut pas aller trop loin en arrière, pas trop démodé au niveau de la technologie, par exemple, qui progresse à une vitesse vertigineuse et pour laquelle il y a toujours un nouveau gadget à acheter, toujours un nouveau besoin qui nous est créé. Il y a un désir constant de nouveauté. Et on recherche ça aussi chez nos athlètes, quand ça fait un athlète qui est dominant pendant très longtemps, bon, OK, c'est correct, on l'a vu assez longtemps, là, c'est qui les nouveaux qui s'en viennent? Au niveau des artistes aussi, des chanteurs, des musiciens, alors il y a sans cesse une quête de la jeunesse, le plus jeune qu'on est capable de trouver et qui va être très bon, des spectacles, des émissions comme America's Got Talent, Britain's Got Talent, qui sont très populaires aux États-Unis, en Europe, où on recherche le nouveau jeune prodige, la nouveauté qui va nous divertir et qu'on va pouvoir admirer avant de s'en ennuyer et passer à la prochaine. Alors, on est constamment en recherche de nouveauté. Et même dans le milieu chrétien aussi, c'est ça. Je suis tellement pas immunisé à ça, moi non plus. Quand ça fait un livre que ça fait 10 ans que c'est sorti, oh, c'est un peu vieux, là. Il n'y a pas quelque chose de nouveau sur ce sujet-là. Il n'y a pas un nouvel auteur. C'est qui le nouvel auteur qui est en vogue? Les nouveaux chanteurs, les nouveaux prédicateurs, les nouvelles églises qui commencent, qui seraient plus intéressantes que les vieilles églises. Mais lorsque je réfléchissais à ça, ça me rappelait une chanson populaire. Quand j'étais au cégep, une chanson des Black Eyed Peas qui s'appelle Boom Boom Pow, qui est peut-être certains d'entre vous la connaissez. C'est sorti en 2009. Wow, ça fait déjà 8 ans. Alors, moi, je parle de nouveauté, puis je vous cite une chanson de 2009. Là. C'est vieux, ça. Mais dans cette chanson-là, il y a les deux phrases suivantes. Je pense que c'est la chanteuse qui dit « I'm so 3008 » parce qu'on est en 2009. Donc, elle dit que 2008, c'est rendu vieux, là. « I'm so 3008, you're so 2008. » Donc, moi, je suis en 3008, toi, t'es en 2000 en retard. Ça fait comme un jeu de mots, 2008. 2008, c'est du passé, t'es en retard, c'était encore en 2008. Alors, il faut être à jour. Et on ne veut surtout pas se faire accuser d'être en retard avec son temps. Mais ça ne serait pas mauvais. Mais c'est un peu la pensée moderne qui nous pousse au niveau de la mode, au niveau des vêtements, au niveau des couleurs, etc. Puis, bon, des domaines que je ne connais pas très bien, mais ça aussi, ça progresse tout le temps. Il y a toujours un désir de nouveauté. Mais quand ça vient à la façon de mener notre vie aussi, à notre façon de vivre, à notre façon de faire des choix dans notre vie, On a tendance aussi à vouloir voir, bon, c'est quoi la nouvelle chose? C'est qui le nouveau gourou du savoir-être dans les magazines? C'est qui la nouvelle personne qui va me donner des trucs? Un truc magique pour perdre du poids, un truc magique pour être heureux, la nouvelle chose qui peut-être pourrait marcher. Dans le fond, les gens recherchent des gens qui vont les aider à prendre des décisions, des gens qui vont les aider à mener leur vie. Cependant, ce que nous, on va vous suggérer à l'Église pendant les quelques prochaines semaines, c'est retourner 3000 ans en arrière pour trouver une sagesse là pour aujourd'hui. Une sagesse d'il y a 3000 ans de moins 1000 pour 2017. Est-ce que ça se peut? Ou c'est moins 900 peut-être? Oui, ça se peut. Parce que c'est une sagesse qui a traversé les époques. La sagesse du livre des Proverbes. Les chansons qu'on entend à la radio, elles vont durer quelques semaines, quelques mois, au plus un ou deux ans. Puis ceux qu'on répète encore des années 70, des années 80, ah, ça, c'est les quelques rares qui ont traversé le temps. Ou même la musique classique. Alors, ce qui a traversé le temps, c'est que pour son époque, c'était vraiment la crème de la crème. Et le livre des Proverbes, tout comme la Bible en entier, la parole de Dieu a traversé les époques et demeure le livre le plus lu, demeure le livre le plus publié, le plus imprimé, traduit dans le plus de langues, le livre qui a fait le plus couler d'encre à propos de lui-même aussi. Il y a quelque chose d'unique dans la Bible. Nous croyons ici à cette Église que c'est la parole de Dieu, que c'est Dieu qui a inspiré des hommes pour convier son message. Alors qu'ils écrivaient de leurs propres mains, parfois directement inspirés de Dieu, parfois de leur pleine personnalité, mais que l'Esprit de Dieu était en eux pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur et que ce qu'ils écrivent soit bon non seulement pour leur époque, mais pour toutes les époques qui allaient suivre jusqu'au retour de Jésus. Alors, la sagesse ancienne, est-ce que c'est simplement une sagesse ancienne, une sagesse qui serait dépassée? Ce qu'on croit, c'est que non. C'est que c'est une sagesse intemporelle. D'où le titre qu'on a donné à cette série, une sagesse intemporelle pour un monde en perte de repères. Aujourd'hui, les gens ne savent plus trop sur quoi se baser pour leurs décisions. Leurs décisions de couple, leurs décisions de vie. Comment est-ce que je dois prendre des décisions dans la vie par rapport à notre moralité? Quel est le fondement sur lequel on peut s'appuyer pour diriger nos vies? Notre monde est en perte de repères. Notre monde ne sait plus trop où s'accrocher. Et nous avons un roc solide. Nous avons la parole de Dieu. Et celui qu'elle révèle, le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Alors, le livre des Proverbes se situe dans l'Ancien Testament. Il se situe dans les livres poétiques de la Bible, donc de l'Ancien Testament. Donc, si on fait un survol des livres de l'Ancien Testament dans l'ordre qui sont dans votre Bible, il y a les 5 livres de Moïse, la Loi, le Pentateuque. Ensuite, il y a les livres historiques. Josué, Juges, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chronique, Esdras, Néhémie, Esther. Et donc, ça, c'est les livres historiques. Ensuite, on arrive dans les livres poétique. Donc, les livres où le genre littéraire principal, c'est de la poésie. Alors, si vous pensez que la Bible, c'est juste une question intellectuelle puis qu'il n'y a pas d'émotion là-dedans, wow! Retournons aux livres poétiques. Au contraire, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'art, des expressions artistiques, émotionnelles, des épanchements de l'âme. Alors, les 5 livres poétiques sont Job et on en a lu un extrait tantôt, le livre des Psaumes, qui est le plus long livre de la Bible, le livre des Proverbes, qu'on va commencer à regarder aujourd'hui, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et après ça, dans votre Bible, s'ensuit les prophètes. Donc, les grands prophètes et ensuite les 12 petits prophètes. Le livre des Proverbes, ce qu'on va étudier dans les deux prochains mois, c'est quoi un proverbe, au juste? C'est une affirmation courte, concise, qui est essentiellement un portrait de la vérité, un portrait de la réalité. Et son objectif, c'est d'être frappant par sa vérité et d'être facilement mémorisable. et d'amener le lecteur à émettre un jugement sur son caractère et ses actions. Sûrement que vous connaissez quelques proverbes. Certaines sociétés fonctionnent plus avec des proverbes que d'autres. Ici, on n'en a pas nécessairement tant que ça. Je me disais, voyons, c'est quoi les proverbes québécois? C'est quoi les proverbes qu'on dit ici? Puis j'en ai trouvé quelques-uns que peut-être que vous connaissez. Par exemple, « petit train va loin », qui signifie « si on avance tranquillement, si on continue à avancer, on va finir par se rendre loin. Si on se brûle tout d'un coup, on n'ira pas loin. » Ou bien « plus on est de fou, plus on rit. » Alors, plus il y a de monde, plus on a du bon temps. Ce n'est pas toujours vrai, mais... Ma mère aimait beaucoup dire, c'est « à cheval donné, on ne regarde pas la bride. » Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ce proverbe-là? Ouais, c'est pas mal juste un proverbe à ma mère, hein? Mais c'est-à-dire, si tu te fais donner un cheval, puis que le cheval, il vient avec une bride, tu te le fais donner, mais tu regardes pas la bride du cheval pour dire « ouais, t'es un peu en mauvais état, t'aurais pu te forcer un peu pour la bride. » Non, si tu te fais donner un cheval, tu regardes pas la bride. À cheval donné, on regarde pas la bride. Et un dernier, « l'habit ne fait pas le moine. » C'est pas parce que quelqu'un est habillé en moine qu'il a nécessairement un cœur de moine. Et ça peut être ça pour n'importe quoi. Les apparences sont parfois trompeuses. C'est ce que ce proverbe-là veut dire. Donc, c'est des exemples de proverbes. Donc, une phrase très courte, c'est concis, c'est facile à mémoriser, parfois même ça peut rimer, et ça énonce une vérité à propos de la vie, à propos de la réalité. Et ça nous permet de se regarder nous-mêmes, puis d'émettre un jugement par rapport à nos propres actions. Dire, bon, quand je mets un cheval, est-ce que je regarde la bride? Pas un cheval, mais quand je me fais donner quelque chose, est-ce que j'ai tendance à regarder les détails pour me plaindre? Ou bien, est-ce que je me brûle tout d'un coup? Je suis mieux d'être un petit train va loin. Ou l'habit ne fait pas le moine, de se dire, peu importe comment je suis habillé, c'est surtout comment j'agis. C'est ce qu'il y a dans mon cœur et pas se fier aux apparences, mais regarder ce qu'il y a plus loin, ce qu'il y a en dessous de la carapace. Alors, ça, ce ne sont pas des proverbes qui sont tirés du livre des proverbes, mais dans le livre des proverbes, il y a des centaines de proverbes similaires à ceux-là, mais un peu différents, qui sont de la poésie hébraïque. Donc, dans le style typiquement hébreu des Israélites de l'Ancien Testament. Qui est l'auteur? Qui sont les auteurs des proverbes? Alors, l'auteur principal du livre des proverbes, c'est le roi Salomon. Salomon qui est le fils de David. Dans l'ordre des rois d'Israël, il y a eu Saül, dont la lignée a été rejetée par Dieu. Dieu a mis un homme selon son cœur, le roi David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, mais un homme avec tous ses défauts aussi, et ses chutes, et ses péchés. Et son fils Salomon est le roi qui l'a succédé, et ça, c'était la période glorieuse d'Israël. C'était essentiellement pendant le règne de ces deux rois-là, de David et de Salomon, que les promesses que Dieu avait faites aux Israélites par rapport à le fait d'être leur territoire dans Canaan s'est accompli le temps de David et Salomon. Mais Salomon était un roi très riche qui a eu malheureusement énormément de femmes qui l'ont mené à l'idolâtrie. Mais on doit croire qu'à ses meilleures années, et la Bible nous le dit, Salomon était doté d'une sagesse inégalable. Il n'y avait personne sur terre qui avait la sagesse de Salomon. Le livre des Rois, 1 Rois, chapitre 3 et 4, nous raconte comment Dieu est apparu à Salomon et lui a demandé « Demande-moi qu'est-ce que tu veux et je vais te le donner. » Salomon était allé offrir des sacrifices à Dieu. Il avait offert 1000 animaux en holocauste. Et cette nuit-là, Dieu lui est apparu dans une vision, lui a demandé « Demande-moi qu'est-ce que tu veux, je vais te le donner. » Et Salomon a dit « J'ai un peuple extrêmement nombreux dont je suis appelé à être le roi. Donne-moi la sagesse pour que je puisse être un bon roi pour ce peuple, pour le guider dans tes voies. » Le Seigneur l'a exaucé, il a dit « Non seulement je vais te donner la sagesse, mais parce que tu n'as pas demandé une longue vie ou la richesse, je vais te les accorder. » Et Salomon a vécu une longue vie, a été extrêmement riche, mais ça l'a probablement mené aussi à toutes sortes de difficultés. Néanmoins, Salomon était un homme extrêmement sage, qui observait le monde, qui a émis beaucoup de ces petits proverbes, et probablement qui est l'auteur des 25 premiers chapitres, ou 24 premiers chapitres du livre des Proverbes. Ensuite, on a quelques extraits qui sont les chapitres 22 à 24. Salomon parle des paroles des sages. Donc, il y a des paroles des sages dans ces chapitres-là. 25 à 29, c'est une deuxième compilation des Proverbes de Salomon. Et ensuite, au chapitre 30, 31, on a des paroles d'Agur et du roi Lémuel, qui sont des figures dont on n'a pas plus d'informations que ça, mais que leur insertion dans le livre des Proverbes garantit ceci est la parole de Dieu. Le Seigneur nous donne ça pour notre vie. Ce qui est intéressant du livre des Proverbes, c'est que les 9 premiers chapitres sont des discours sur la sagesse. Quand on pense au livre des Proverbes, on pense souvent à ces phrases en deux lignes, là, qui sont typiques des proverbes hébreux. Par exemple, dans Proverbes 17, 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Alors, les proverbes souvent sont en deux lignes, soit qui sont synonymes, soit qui sont opposés, soit qui se complètent l'une l'autre, soit la deuxième est le résultat ou le but de la première. Alors, beaucoup de ces phrases-là en deux lignes, je vais en citer plusieurs dans ce qui suit. Mais les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes ne sont pas des petits versets qui ne sont pas reliés l'un à l'autre. Ce sont des divers discours qui sont entre 8 et 25 versets d'un père qui parle à son fils, qui dit « mon fils ». Par exemple, ça commence au Proverbe 1 au verset 8. Le premier de ses discours. On y arrive. Vous pouvez tourner avec moi. Proverbe 1, verset 8. Sûrement Salomon aussi qui dit, « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. » Là, les prochains versets, ils parlent des dangers de s'associer avec les gens qui veulent faire du mal, qui veulent aller voler, qui veulent aller tuer pour gagner de l'argent. Alors, c'est pas juste deux lignes, là, ou une phrase en deux lignes. C'est un discours, et il y en a plusieurs de ceux-là, des discours sur divers thèmes. En fait, c'est beaucoup à l'impératif. C'est le père, ou c'est peut-être l'enseignant aussi qui parle à ses disciples en les appelant « mon fils ». Mais qui dit « Agis selon la sagesse, apprends la sagesse et vis en conséquence. » Donc, les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes, c'est ça. Et pas mal, en général, le restant, 10 à 31, à part quelques exceptions, ce sont des courtes phrases qui ne sont pas nécessairement reliées l'une à l'autre. Quelque chose qu'on observe aussi dans le livre des Proverbes, c'est que c'est un monde très noir et blanc. C'est un monde où il n'y a pas beaucoup de gris. Il y a la sagesse et il y a la folie. Il y a les bons et il y a les méchants. Il y a les justes et il y a les injustes. Il y a les intelligents et il y a les stupides. Et c'est très très noir et blanc, et ça fonctionne très bien avec cette forme de poésie aussi en deux lignes. Une ligne, le bon fait ceci, le méchant fait ceci. Alors, c'est quelque chose qui nous amène à penser, à réfléchir à nous-mêmes. Et moi, j'avais tendance à lire les proverbes en me mettant toujours du côté du bon. Donc, le bon fait ceci, oui. Oui, moi, je vais faire cela. Ou, ah oui, oui, ça, c'est moi, ça. Puis, le méchant fait cela. Ah non, non, le stupide ou l'idiot. Non, 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 l'idiot fait ceci. Bon, c'est pas important, ça s'adresse pas à moi. Moi, je suis pas idiot. Mais si je lisais un peu mieux, je me suis rendu compte de ça dans les dernières années en lisant les proverbes. J'aimerais avoir un exemple. Mais, par exemple, ici, 17-24. « La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'homme stupide s'en vont à l'extrémité de la terre. » Bon, qu'est-ce que ça veut dire? La sagesse est en face de l'homme intelligent. Sûrement qu'il regarde près de lui, il reste concentré sur sa tâche à accomplir, sur ce qu'il doit faire dans la vie, sur les gens qu'il veut aimer. Mais les yeux de l'homme stupide s'en vont à l'extrémité de la terre. Probablement qu'il recherche, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux plus loin? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y aurait une plus belle femme à voir? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu plus d'argent à faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre, un meilleur client qui paye mieux que l'autre? Et là, quand je le regarde comme ça, les yeux de l'homme stupide s'en vont à l'extrémité de la terre. Je pourrais dire, oh, l'homme stupide, c'est pas moi, ça. Mais si je dis, est-ce que mes yeux s'en vont à l'extrémité de la terre? Est-ce que j'ai tendance à regarder au-delà de ce que j'ai, de ce que le Seigneur m'a donné? Ouais. Et c'est quoi le verdict du livre des Proverbes par rapport à moi? Que si je fais ça, je suis un homme stupide. Alors, wouh! On prend une petite douche froide. OK. On est appelé à changer. On ne veut pas rester là. On ne veut pas rester dans le camp de l'insensé ou du stupide ou du fou. Mais je vous invite avec moi à vous reconnaître dans le camp des stupides, à vous reconnaître dans le camp des fous pour essayer d'enlever notre aveuglement à notre propre péché. Une des choses les plus puissantes du péché n'est pas nécessairement sa force pour nous tenter, mais sa force pour nous aveugler. Le péché est extrêmement puissant pour nous aveugler et on se justifie, on ne voit pas qu'est-ce qu'on fait, comment on agit, comment on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait. Alors, soyons prêts à s'identifier dans le camp des fous, à reconnaître lorsqu'on lit les proverbes, « Oh, c'est peut-être de moi que ça parle. » Et s'il dit « les fous », le fou convoite ce qui ne lui appartient pas. Tu diras, ah, ben ça ne me concerne pas. Non, est-ce que je convoite ce qui ne m'appartient pas? Si je convoite ce qui ne m'appartient pas, ça veut dire que je suis un fou. Oh, à changer. Seigneur, aide-moi à être reconnaissant pour ce que j'ai. Alors, le monde des proverbes, c'est très noir et blanc. Et je pense qu'on doit être prêt à autant être exhorté à aller dans le côté positif que de se reconnaître dans le côté négatif, puis demander au Seigneur la grâce, la capacité, la transformation de cœur pour changer de bord, pour aller du camp du sage et non pas rester dans le camp de la folie. Le monde des proverbes aussi, c'est un monde qui est assez simple, dans le sens où il conçoit que lorsque tu fais le bien, tu vas être béni. Et lorsque tu fais le mal, tu vas être maudit, ou tu vas avoir des problèmes, ou tu vas être malade, ou tu vas être pauvre, ou tu vas mourir. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Tu peux faire le bien, être fidèle, même te sacrifier toi-même pour le bien des autres et recevoir en retour de l'ingratitude, de la trahison et la persécution. N'est-ce pas ce qui est arrivé à notre Seigneur, d'ailleurs? C'est ce que Jésus a reçu pour tout le bien que lui-même avait fait. Alors, dans ce monde des proverbes, c'est comme un monde si tout était selon ce que Dieu l'a voulu. Mais on est dans un monde qui est taché par le péché d'une façon qu'on n'est pas capable de se l'enlever de notre peau. Un monde où les choses fonctionnent un peu à l'envers de ce qu'elles devraient. Mais dans le monde où, comme Dieu le voulait, faire le bien mènerait à la bénédiction et faire le mal mènerait à la malédiction. Est-ce que c'est que Dieu n'est pas puissant pour l'accomplir? Non, le Seigneur est capable de faire ça. Mais même si on fait face à des difficultés, même si on fait face à des épreuves, ce n'est pas nécessairement une conséquence de nos péchés. Ça peut l'être, mais ce n'est pas parce qu'on a une difficulté qu'on a un péché qu'on doit confesser. Le plus grand exemple de ça dans la Bible, c'est le livre de Job. Job qui a souffert injustement, que c'était une épreuve, qu'à travers ça, Dieu allait se glorifier dans son épreuve, qu'il n'allait pas renier le Seigneur. Le psaume 73 aussi est un exemple de ça. Donc, la Bible n'est pas aveugle au fait que c'est pas toujours vrai que fais le bien, tu seras béni, et fais le mal, et tu auras de la misère. Alors qu'on regarde le livre des Proverbes, même certaines phrases comme « Élève l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » C'est quelque chose de général. Ce n'est pas une promesse garantie. Mais en général, si tu élèves un enfant selon les voies du Seigneur, la bénédiction la bénédiction un peu logique de ça, c'est que l'enfant continuerait dans cette voie-là. Cependant, il y a la souveraineté de Dieu à travers ça. Il y a le fait que chaque personne est responsable pour elle-même, chaque personne doit prendre des décisions elle-même, et nos enfants ont pris ou prennent des décisions eux-mêmes, peu importe la façon qu'on les éduque. Alors, on fait de notre mieux par la grâce de Dieu. On demande à Dieu de couvrir nos erreurs. Peut-être que nos enfants vont suivre le Seigneur. Peut-être qu'on peut être des excellents parents et que nos enfants ne suivront pas le Seigneur. Et peut-être qu'on peut être de piètres parents et que nos enfants vont suivre le Seigneur. Alors, à travers tout ça, il y a la grâce de Dieu qui est tellement essentielle à garder en tête. Le livre des Proverbes traite d'une multitude de domaines de l'expérience humaine régulière. Donc, c'est possible que c'était enseigné à la cour, mais à la cour des rois, à la cour des sages. Mais les Proverbes parlent de beaucoup de choses de la vie régulière. Des relations de mariage, la relation parent-enfant, des relations de commerce, de l'amitié, la gestion des biens, la nourriture, la boisson, la tentation sexuelle, le travail assidu, la paresse, les défauts comme l'orgueil, la colère, les vertus comme la patience, l'honnêteté. Et on pourrait aller dans toutes sortes de directions, il y aurait tellement de choses à regarder dans le livre des Proverbes. Mais on a décidé de s'arrêter à 6 sujets pour nos prochains 2 mois. Aujourd'hui, c'est une forme d'introduction au livre des Proverbes. À partir de la semaine prochaine, on regarde les sujets plus en détail. Donc, la semaine prochaine, on va regarder le pouvoir de la parole. Ensuite, les relations et l'amitié. Ensuite, notre frère Mario Brochu va nous parler de la gestion financière. Ensuite, Emmanuel Fargeau va prêcher sur la famille. Ça va être au mois d'août. Ovidie aussi va prêcher sur la tentation sexuelle. Et finalement, quand je vais revenir de vacances, je vais prêcher sur la justice et le soin des faibles. Donc, tous des thèmes qu'on retrouve d'un bord à l'autre du livre des Proverbes. Et je vous invite à lire le livre des Proverbes cet été. Lire un proverbe, un chapitre par jour. C'est 30 versets. Ça peut vous prendre 4-5 minutes, lire un chapitre des Proverbes. Puis il y a de quoi ruminer et réfléchir pour un an. Mais s'il y en a une ou deux dans votre journée que vous gardez en tête dans ce que vous aurez lu, des choses à garder en tête, à réfléchir au courant de la journée, à méditer, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va nous faire beaucoup de bien. Alors, j'arrive à ce qui était particulièrement l'introduction que je voulais faire aujourd'hui. En général, le livre des Proverbes offre probablement ce court message: recherche la sagesse. Recherche la sagesse. Recherche une sagesse intemporelle dans un monde en perte de repères. Mais c'est quoi au juste la sagesse? Lorsqu'on pense à des gens sages, bon, on pense à des gens avec des cheveux blancs, qui ont une longue barbe blanche, alors eux, ce sont des sages. Des gens qui ont vécu longtemps, qui ont beaucoup d'expérience de vie. On peut penser à nos grands-parents, quand on pense à des gens sages, à des gens qu'on admire, des gens qui ont de l'expérience. Mais souvent, les gens qu'on considère sages, c'est non seulement des gens qui vont avoir un très bon intellect, mais c'est des gens qui vont avoir une vie vécue selon la sagesse également. Et le livre des Proverbes va exactement dans ce sens-là. La sagesse, selon le livre des Proverbes, et la sagesse qu'on doit rechercher, c'est pas seulement être très intelligent ou être capable de bien discerner les choses. Oui, c'est de penser, mais c'est aussi de vivre en accord avec la volonté de Dieu, avec comment les choses sont vraiment dans notre monde. Dans Jacques, l'Épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, chapitre 3, verset 13, Jacques dit essentiellement la même chose. Il dit, « Lequel parmi vous est sage et intelligent qu'il montre par un diloquent, dit qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » La sagesse, c'est pas quelque chose d'intellectuel ou qu'on est capable de dire, c'est la façon qu'on vit. Et ça, dans le livre des Proverbes, ça fait contraste avec la folie. La folie, ce n'est pas la démence, ce n'est pas une déficience intellectuelle dans la façon que la Bible utilise ce terme-là, mais c'est une façon de penser et de vivre qui ignore comment les choses sont vraiment, qui va nous mener, dans le fond, qui va nous mener à notre perte. Où peut-on rechercher la sagesse? On peut la rechercher un peu partout. Et dans le livre des Proverbes, on voit Salomon, on voit les sages qui observent autour d'eux, qui regardent comment les choses se passent, qui regarde les animaux, qui regarde la nature, qui regarde l'interaction entre eux et qui prime, voici comment le monde fonctionne. Voici ce qui se passe dans le monde. Cependant, tout ça reste dans un contexte divin. Dans 1 Corinthiens 1, 25 à 27, Paul dit ceci, « En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Continue au verset 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. » Alors, la sagesse que l'on doit rechercher, que le livre des Proverbes nous appelle à rechercher, n'est pas une sagesse de notre monde, n'est pas une sagesse humaine, mais une sagesse divine. Et parfois, il va falloir oser être fou selon les critères de notre monde, pour être vraiment sage. Ça m'amène à... Je lisais cette semaine, il y a un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, qui est écrit par un théologien et blogueur canadien qui s'appelle Tim Challies, qui est pasteur à Toronto. Son livre s'appelle « The Next Story, Life After the Digital Explosion ». Donc, la prochaine histoire, la vie après l'explosion digitale. C'est un livre qui a écrit en 2010 et il parlait de l'avènement de l'Internet et de la technologie, de quelle façon est-ce que notre vie est en train de changer avec essentiellement cette explosion dans notre monde. De quelle façon notre monde est en train de changer, de quelle façon les outils technologiques étaient extrêmement puissants, mais étaient extrêmement puissants pour le bien, mais aussi extrêmement puissants pour le mal. Et il disait dans son livre, il a fait une distinction entre différentes choses. Il a fait la distinction entre l'information, la connaissance et la sagesse. Et on est dans un monde qui n'a jamais eu autant d'informations. À l'époque biblique, par exemple, tous les livres devaient être recopiés à la main par des scribes. Les gens n'avaient pas des moyens de se déplacer très loin. Les gens pouvaient vivre toute leur vie dans un rayon de 100 km, toute leur vie dans un même village, avec les relations avec les mêmes personnes. Il n'y avait pas beaucoup de nouvelles informations, il n'y avait pas une grande quantité d'informations avec laquelle ils vivaient. Avec l'avènement de l'imprimerie, la capacité de diffuser l'information a explosé. Là, on était capable d'imprimer des grandes quantités. On n'avait plus besoin de les recopier à la main et faire des milliers de copies, diffuser ça, tous ceux qui voulaient les acheter. Mais suite à l'imprimerie, la prochaine grande explosion technologique, à ce niveau-là, ça a été l'avènement de l'Internet. Et la puissance d'Internet pour nous donner accès à une quantité d'informations innombrables. La quantité d'informations qui existe maintenant sur Internet et qui nous est disponible à quelques touchés de pouces est presque incomparable. Le livre que je lisais, qui a été écrit en 2010, donnait cette illustration-là. Ils estimaient qu'en 2020, donc c'est quand même une vieille estimation, mais qu'ils estimaient qu'en 2020, la quantité d'informations qui existe soit de 44 zettabits. Alors, je ne sais pas c'est quoi un zettabit, mais il dit c'est comme si on remplissait des DVD pleins d'informations. Et on les empilait un par-dessus l'autre. Et ça, c'est toute l'information qui existe. Alors, des DVD. Et là, ils montraient jusqu'à la Lune, et non pas jusqu'à la Lune, mais à mi-chemin de Mars. Alors, ils estimaient qu'en 2020, la quantité d'informations qui nous serait accessible ou qui existerait dans le monde, ça serait remplir des DVD, les empiler un par-dessus l'autre, et on serait rendu à mi-chemin de Mars. C'est débile. C'est absolument incroyable. Cependant, donc notre capacité d'avoir accès à de l'information est telle qu'elle ne l'a jamais été. Hier, je regardais la météo, je regardais les images satellites des précipitations qui avançaient. On est capable d'avoir accès par Internet à une quantité d'informations incalculable. Cependant, notre capacité de se souvenir, on est en train de la perdre, justement parce qu'on se dit, moi, je n'ai pas besoin de m'en souvenir, je peux demander à Google quand j'en aurai besoin. Ou je peux regarder sur Internet quand j'en aurai besoin. Alors, notre capacité de mémoriser, notre capacité de retenir est en train de diminuer. Parce que l'accès à l'information devient plus important que la connaissance. Pour nous, c'est un petit peu la façon qu'on opère dans notre monde. Alors, l'information, ce n'est pas vertueux en soi. L'information, ça ne change pas ta vie. Mais quand l'information est triée, quand l'information est organisée, quand elle est analysée, elle devient de la connaissance. Et avec de la connaissance, là, on peut apprendre des choses, on peut prendre des décisions. Mais le prochain niveau, au-delà de la connaissance, c'est celui de la sagesse. C'est celui où on vit selon comment Dieu a ordonné le monde. On vit selon comment Dieu nous a créés pour être. Et j'ai trouvé ça vraiment pertinent de faire la différence entre le fait qu'on a l'accès à l'information comme jamais auparavant. Mais est-ce qu'on est nécessairement plus intelligent? Est-ce qu'on est plus sage? Est-ce qu'on vit d'une façon plus sage? Peut-être même qu'on est en train de régresser. Mais ça, c'est du peut-être. Mais le fait d'avoir accès à de plus en plus d'informations, ça nous amène à moins mémoriser, à moins garder en tête. On a moins de connaissances personnelles là-dedans et possiblement là-dedans, dans notre cœur. C'est pour ça que je pense que c'est important pour nous. Pas juste je pense, je crois. Et la Bible nous dit que c'est important pour nous d'apprendre à vivre selon la sagesse. Qu'il n'y a rien qui égale la sagesse. Ce qu'il y avait de plus précieux à l'époque biblique, c'était probablement la famille, puis ensuite les possessions. Mais Salomon, dans les Proverbes, nous dit, au verset Proverbes 16:16, « Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. » Et dans 17:16, il dit, « À quoi sert un salaire entre les mains de l'homme stupide? Il ne peut acheter la sagesse et le bon sens. » La sagesse, ça vaut plus cher que l'argent. Et on ne peut pas l'acheter. On n'est pas capable d'acheter la sagesse. On n'est pas capable d'acheter le bon sens. Recherchons-la. Parce qu'on n'est pas capable de la faire fructifier à la bourse. On n'est pas capable de travailler puis de la recevoir dans notre compte en banque avec notre chèque de paye ou avec nos rentes. Je vous invite à lire avec moi les premiers versets du livre des Proverbes. Proverbes 1, versets 1 à 7. C'est en quelque sorte l'introduction au livre des Proverbes au complet. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Alors, je pense que ça explique ici c'est quoi le but du livre des Proverbes. Ces Proverbes de Salomon, c'est pour nous qu'on puisse acquérir la sagesse, l'intelligence. Et à qui est-ce que ça s'adresse? Bien, au verset 4, ça le dit, à ceux qui manquent d'expérience ou aux simples, ceux qui veulent en acquérir, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Donc, ça s'adresse à ceux qui commencent un peu dans la vie, qui commencent un peu dans leur quête de sagesse. Mais est-ce que c'est juste pour eux? Donc, ça continue au verset 5. « Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. » C'est ici, lorsqu'on arrive au verset 7, qu'on découvre probablement la vérité la plus importante par rapport à la quête de la sagesse. Elle est mise ici, entre l'introduction et le début du premier discours, la phrase la plus importante qui va être répétée à sa façon dans le livre des Proverbes. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Si tu veux vivre d'une façon intelligente, en lien avec les lois de la nature, ne pas te battre contre la nature, eh bien, ça commence par ne pas te battre contre le Créateur. Ça commence par craindre l'Éternel. Est-ce que c'est craindre l'Éternel? Est-ce que c'est purement de la peur? Est-ce que c'est d'en avoir peur, de fuir loin de lui? Ce n'est pas ce genre de crainte-là dont il est question. Un peu comme la crainte d'un père. Avoir un respect, mais aussi on a peur de désobéir à papa. Ou la crainte d'un roi. Un roi qu'on sait qu'il est bon, un roi qu'on sait qu'il est bienveillant, il aime son peuple, mais il est puissant, il est fort, alors on veut le respecter. Alors cette crainte de l'Éternel, c'est un profond respect, une révérence et peut-être une sage peur de Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui est le juste juge. Mais le début de la connaissance, la clé de la connaissance, comme le traduit le sommaire, la traduction sommaire, c'est la crainte de l'Éternel. C'est chercher à le connaître. Et c'est une phrase qui est répétée à des endroits extrêmement importants dans les livres. Le chapitre 9, c'est la fin des discours avant de commencer les petits proverbes 1 à 1. Et c'est répété, la phrase que notre sœur Amélie a imprimée dans le bulletin, d'ailleurs, qui dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, ou bien la connaissance des saints, voilà en quoi consiste l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Et c'est essentiellement répété à la fin du livre, à un autre endroit extrêmement important, dans le poème sur la femme de valeur. L'avant-dernier verset de tout le livre des Proverbes dit ceci. « La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. » Alors, à travers toute la sagesse que le livre des Proverbes nous donne, le cœur de la sagesse, c'est de craindre l'Éternel, c'est d'avoir foi en lui, c'est de se confier en lui, c'est de se remettre à lui, c'est de s'abandonner à lui. Et j'aimerais ajouter probablement la deuxième vérité la plus importante sur la recherche de la sagesse. La première, c'est que ça vient par la crainte de l'Éternel. Et la deuxième, c'est qu'elle vient par Jésus-Christ. Jésus-Christ, que le Nouveau Testament nous dit, qui est notre sagesse. Jésus a été l'incarnation suprême de la sagesse. Et donc, rechercher la sagesse, ça doit être de rechercher Jésus. Dans 2 Timothée 3,15, Paul parle à Timothée et lui dit, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » La sagesse, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est de le rechercher, lui. Dans Matthieu 12, au verset 42, Jésus, dans un de ses discours, lui dit, « Lors du jugement, la reine du Midi, qui est celle qui est venue visiter Salomon, se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Jésus était plus que Salomon. Il était la sagesse incarnée. Et si on le voit dans ces essentiellement dans ces termes-là, dans 1 Corinthiens 1:30, Paul dit, inspiré par l'Esprit de Dieu, « C'est grâce à lui, c'est grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse. » Jésus-Christ est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, notre sanctification, ou la source de notre sainteté, et notre rédemption. Jésus est devenu toutes ces choses pour nous. Notre justice, notre rédemption, notre sanctification, et il est devenu notre sagesse. Dans Colossiens 2:3, Dieu nous dit que c'est en lui, c'est-à-dire c'est en Jésus, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Les choses les plus précieuses de la sagesse et de la connaissance. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de la sagesse ou de la connaissance autre que dans Jésus, mais que tout le monde a été créé par lui, pour lui, en lui. Et tout ce que ce monde a de meilleur, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se trouvent en Jésus-Christ. Ce dont Dieu, le Père, veut que nous soyons le plus émerveillés cet été, ce n'est pas par le livre des Proverbes, c'est de son Fils Jésus-Christ. Par sa vie parfaite, par sa mort sacrificielle, par sa résurrection d'entre les morts, il nous a démontré ce que c'était de vivre vraiment selon la sagesse de Dieu. Vivre une vie sage, ça va être vivre une vie qui s'inspire de la vie de Jésus. Jésus, il est même devenu l'expression de la plus grande sagesse de Dieu. Il est devenu le moyen de la rédemption pour les pécheurs rebelles et loin de Dieu, tels que nous sommes tous. Et Dieu donne, par Jésus, l'assurance de la vie éternelle. L'assurance d'être des enfants de Dieu à tous ceux qui abandonnent leur péché, qui renoncent à vouloir vivre leur vie à leur façon, qui disent « Seigneur, je vais te suivre » et qui placent leur confiance en lui seul pour le pardon de leurs péchés. J'aimerais terminer avec quelques suggestions, quelques applications. Peut-être que ça aurait dû faire plus partie de mon message, mais de quelle façon est-ce que cet été on peut rechercher la sagesse? Alors, probablement que notre plus grand danger par rapport à la sagesse, c'est d'être distrait par autre chose de moins bon. Des choses comme ça et tous les écrans qu'on a à la maison sont des sources de distraction sans nombre pour nous. On a accès à la télé via Netflix, à plus d'émissions, plus de télé, plus de choses intéressantes qu'on serait capable d'avoir du temps pour l'écouter. Même si on écoutait ça 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, on n'aurait pas assez de temps pour écouter tout ce qui sort et tout ce qui est disponible pour notre divertissement et pour notre amusement. Ou même pour... Ou ça peut être pour notre apprentissage aussi, pour grandir en connaissance. Mais parfois, le bon ou le bien est le dangereux ennemi du meilleur. Et cet été, peut-être alors qu'on a un peu plus de temps, ou peut-être alors qu'on va être en vacances, je nous encourage à déconnecter un peu, de passer un peu moins de temps devant l'écran, de minimiser les choses qui ont tendance à nous abrutir ou qui sont des mauvaises influences sur nous. Et ça se passe beaucoup à l'écran, ça se passe beaucoup à ce qui rentre dans nos yeux, ce qui rentre dans nos oreilles. Puis faire rentrer dans nos yeux, faire rentrer dans nos oreilles des choses qui vont nourrir notre âme, des choses qui vont nous mener vers la crainte de l'Éternel, vers la crainte de l'Éternel, des choses qui vont nous mener vers la sagesse incarnée, vers Jésus-Christ lui-même. Alors apprenons à mettre de côté nos distractions. Diminuons notre temps d'écran. Peut-être de ne pas regarder notre téléphone avant d'avoir prié. Souvent, on garde notre téléphone. Il y a de plus en plus de gens, une très haute proportion de personnes. La dernière chose qu'on fait avant de se coucher, c'est de regarder notre téléphone. On dort avec notre téléphone juste à côté. Puis quand on se réveille, avant d'aller à la toilette, on regarde si on a eu des messages textes. On regarde combien de... ce qu'on a eu. Alors, que ce soit, oui, par un téléphone, mais que ce soit par la télé, que ce soit par la radio, ce dont on sert pour nourrir notre âme. On dit, ah ben, c'est juste du bruit de fond. Mais peut-être qu'on doit rechercher un peu plus le silence, un peu plus la solitude. Des fois, on est mal à l'aise avec le silence, la solitude. On s'est tellement conditionné, on a programmé nos cerveaux à constamment rouler et à ne pas vraiment être bien concentré. Alors, il faut mettre les distractions de côté. Sachons mettre les distractions de côté à des moments opportuns pour plonger nos regards dans la parole de Dieu, pour lire les proverbes, pour les méditer, pour prendre des moments de silence, prendre des moments de prière, rechercher la crainte de l'Éternel, rechercher Jésus, la sagesse incarnée. J'aimerais terminer par cette prière que l'apôtre Paul a faite pour les Colossiens, que je fais aussi pour nous. Et Paul dit ceci, « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. » Cet été, mes amis, mes frères et sœurs, recherchons la sagesse. Recherchons la sagesse qui vient de Dieu. Dans sa parole, en méditant sa parole, en passant du temps avec lui. Et que le Seigneur nous vienne en aide pour nous aider à grandir. Selon l'image, le modèle de son Fils Jésus-Christ. Amen.
Merci Benoît pour cette prédication qui nous renvoie dans les proverbes, dans la sagesse. Et ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est que la sagesse est devenue, c'est Jésus-Christ qui est notre sagesse. C'est lui qui est notre sanctification. Alors nous allons nous lever pour prier, pour chanter, excusez, et pour clôturer la réunion. Thank you. Ce beau temps que nous avons passé en ta présence. Père, nous voulons que cela se répète de jour en jour, de semaine en semaine, afin que nous puissions vivre, Seigneur Jésus, la communion avec toi, l'avant-goût du ciel. Père, nous te supplions. Seigneur, tu avais dit à Moïse que c'est ainsi que tu vas bénir les enfants d'Israël. Nous voulons faire cette même prière pour nos bien-aimés. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui ta face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.